Chapitre 3. Monsieur Guzzi se mit en route avec Fiole et la femme chauve et le chien Fuchs. Notre Anna ne m'a pas raconté leur voyage. Je sais seulement qu'en arrivant à Vienne, ils se logèrent chez un usurier qui prêtait de l'argent à Mario Fantelcone. Ce juif avait déjà des signatures du jeune comte pour plus d'1 million de florins. Son nom était Moïse. Il demeurait au troisième étage d'une grande maison de Craben avec la fille de sa fille, la belle Déborah, qui attachait toutes les nuits une échelle de soie à son balcon pour prendre la collation dans sa chambre avec le capitaine Mario. Le vieux Moïse avait une poche de cuir à sa houppelande et y portait toujours les signatures de Montefalcone qui était le meilleur de sa fortune. Il couchait avec sa houppelande. Le balcon où la belle et coupable Déborah nouait son échelle de soie était tout en fer. Un jour qu'il y avait une fête militaire entre les charmilles du château impérial de Schönbrunn, qui sont les plus hautes de l'univers, Déborah tourmenta son aïeul si bel et si bien qu'il consentit à la mener voir la revue. Elle mit ses plus beaux atours et tous les bijoux que son capitaine lui avait donnés. Elle était superbe. Ses perles et ses rubis représentaient juste le montant des signatures du Montefalcone, sauf le bénéfice de Moïse. Le Montefalcone, de son côté, avait un uniforme tout neuf et des plus brillants. Ils furent contents l'un de l'autre au défilé que leurs regards échangèrent profite-messe d'un rendez-vous pour la nuit qui venait. Moïse avait sa main sur sa poche de cuir et la sentait contre son cœur. Tout le monde était heureux. Même M. Guzzi, Fiole et Fuchs étaient restés à garder la maison du Graben. Ils passèrent tout le temps de la fête dans la chambre de la belle Déborah, dont on avait baissé les jalousies. M. Guzzi et Fiole se reliaient au balcon avec une pierre à aiguiser. Fuchs montait la garde dans l'escalier. Quand M. Guzzi et Fiole cessèrent de travailler, la barre de fer qui servait d'appui au balcon était tranchante comme un couteau à ses deux arêtes supérieures. La nuit suivante, à l'heure où la place du Graben est déserte, le petit comte Montefalcone, gai comme un pinson, arriva, enveloppé dans son manteau d'aventure. Aussitôt qu'il parut, l'échelle de soie tomba du balcon de Déborah, et le petit comte se mit à monter. L'échelle était bien bonne, car la barre de fer du balcon, changée en rasoir, mit du temps à la trancher, mais l'échelle ne se rompit qu'au moment où le capitaine dépassait le second étage. Il eut deux grands cris, un de femme et un de capitaine. Puis le silence des nuits régna de nouveau comme un fleuve se referme sur le noyer qui tombe du parapet du pont. Et au même instant, M. Guzzi éveillait le vieux Moïse pour lui apprendre qu'un malfaiteur escaladait les balcons de sa maison. Le bonhomme sortit, portant un tromblon d'une main et pressant de l'autre sa poche de cuir. Fuchs, le chien à figure humaine, l'étrangla sur le pas de sa porte. M. Guzzi n'avait plus rien à faire à Vienne. Après avoir vidé de la poche de cuir, il se remit en route au clair de lune, le cœur léger en chantant des refrains populaires. L'escorte de M. Guzzi, cependant, s'était augmentée. Outre le chien Fuchs et Fiole et la femme chauve, ou si mieux vous aimez Gretz et Los, il avait un perroquet et un petit garçonnet qui jouaient au cerceau tout le long du chemin. Le perroquet était Moïse. Bec puissant, griffe rochue, le bambin était le capitaine. On n'avait pas trouvé de quoi faire mieux sous ses brillants uniformes. Et au lieu de reprendre le chemin des Pays-Bas, M. Guzzi dirigea ses pas vers le sud-est à travers l'archiduché d'Autriche, la Carinthie et la Carniole. Elle ne m'a jamais spécifié s'il fit la route à pied ou en voiture. Mais il y a un détail assez curieux touchant la façon dont les vampires et leurs accessoires s'y prennent pour franchir les cours d'eau. Toute la famille se presse contre le maître vampire et entre en lui. Et quand le tour est fait, le maître se couche sur l'eau et vogue, les pieds premiers comme une planche. Aucun courant, si fort qu'il soit, ne l'arrête. Chaque fois que vous trouverez une personne allant ainsi, les pieds en avant sur les rivières, oh, ne négligez aucune précaution, car il est certain que ce sera un vampire. Monsieur Guzzi obliqua un peu vers l'est, à la hauteur de Trieste, coupa l'Istrie, traversa la Croatie, entra en Dalmatie et s'engagea dans les Alpes dinariques jusqu'à la frontière de l'Albanie où est situé le château de Montefalcone, un des plus imposants qui soit au monde et qui servira de théâtre aux faits les plus dramatiques de notre histoire. Tout y était hérissé, tumultueux, sinistre, depuis le gazon du sol jusqu'aux nuages du ciel. Les pics de la montagne escaladaient les derniers plans avec une sauvage fureur, puis c'était un tohu-bohu de tours, de créneaux, de beffrois, laissant pendre des chevelures de lianes énormes par des centaines de crevasses. On voyait des pins qui croissaient dans les murs et les murs semblaient jaillir de précipices sans fond. L'idée qui surgissait au-dessus de tout autre, c'était l'impossibilité absolue d'entrer là-dedans malgré la volonté du maître. Derrière les fenêtres étroites et longues, on devinait l'embuscade du guetteur. Les meurtrières menaçaient. Les ponts-levis, armés de leurs herses, pendaient au-dessus du vide comme autant de gigantesques pièges. Nulle sentinelle sur les remparts. Mais à l'angle d'une courtine éclairée par les cornes de la lune demi-noyée dans un nuage, écailleux et plat comme le dos d'un crocodile, la carcasse carrée d'un gibet auquel tenait encore un squelette et autour duquel tournoyaient des corbeaux. Monsieur Guzzi arriva quelques instants avant le coucher du soleil et s'arrêta au sommet d'un pic très élevé d'où son regard dominait tout le pays. De là, il apercevait non seulement le château, mais beaucoup de villes et de villages, des gorges incultes, des campagnes fertiles, les îles dans la mer. Il contempla longtemps toutes ces choses, qui sont très belles, et principalement le domaine de Montefalcone, véritable apanage de prince. Un sourire indéfinissable jouait autour de ses lèvres, ardentes comme des charbons de feu. Tout à coup, il dit « Allez !» Et aussitôt les spectres de sclaves qui l'entouraient le quittèrent. Le perroquet s'envola, le chien bondit sur la pente de la montagne, suivi par la femme chauve et le garçonnet qui faisait rouler son cerceau. Quand ils furent partis, M. Guzzi se dédoubla pour avoir avec qui causer. Il alluma un feu, et ceux qui levèrent les yeux ce soir du fond de la vallée virent au sommet du pic inaccessible, où nul pied humain n'avait jamais imprimé sa trace, deux formes glauques accroupies dans la neige et qui se chauffaient à un brasier vide. Il était nuit quand les émissaires revinrent. Le château de Montefalcone n'apparaissait plus que comme une masse grandiose entre les montagnes. Çà et là, derrière la ceinture des créneaux, des lueurs brillaient. Quoique M. Guzzi n'eût rien dit à ses esclaves au moment du départ, chacun d'eux avait emporté ses instructions. Ils revinrent tous, mais en même temps, ils étaient tous restés là-bas, aux différents postes qui leur avaient été assignés. Cette faculté de dédoublement leur rend des services incontestables. Toutes ces moitiés de démons s'assirent en rond autour du foyer, excepté le perroquet qui se percha sur l'épaule de Fiole, et M. Guzzi écouta les rapports. Fiole parla la première et dit « Souverain maître, je suis entré au cours de garde de la grande porte avec mon mari le Kirschwasser. Oh, il paraît que je ne suis pas encore trop détérioré, car tous les soulards ont voulu m'embrasser en m'appelant mon cœur. Voici ce que j'ai appris. Le château est sur le pied de guerre à cause d'une bande de brigands qui infestent la montagne. La garnison est assez nombreuse pour défendre une ville. Il y a une importante artillerie. Bien malin sera celui qui entrera là-dedans. Où est ton baril? Demanda M. Gulzy. Souverain seigneur, répondit Fiole, il est aux corps de garde où je continue de verser à boire aux soldats qui m'appellent mon cœur. Le chien Fuchs éclata de rire et le perroquet picota le grand nu de l'oreille vieille. C'est bien, dit M. Gulzy, à toi, caniche. Souverain seigneur, répliqua Fuchs, j'ai fait le tour des fortifications. Il n'y a qu'un seul endroit faible, et encore il faudrait la sape et la mine pour entrer par là. C'est une courtine où il n'y a pas de sentinelle, mais on y avait bien bien aussi grand qu'un bœuf. Il s'est trouvé que nos sexes étaient variés. Tu as joué de la guitare sous sa croisée? Interrompit M. Gulzy, qui était en belle humeur. Oui, souverain seigneur, il est venu tout brûlant de tendresse. Moi, je l'ai étranglé, et c'est moi qui monte la garde à l'heure qu'il est dans le préau. C'est bien, dit encore M. Gulzy en lui accordant un coup de talon caressant. À vous, capitaine? Le bambin essuya sa bouche où restaient des traces de confiture. Mon colonel, dit-il en faisant le salut militaire, j'ai été avec mon cerceau, donné dans les jupes de trois belles demoiselles qui sont les filles de chambre de cette ville comtesse. Ah, et mon bourré de friandises en me racontant qu'elles allaient avoir des robes noires toutes neuves, parce que la nouvelle est arrivée de Vienne, que le fils de la maison, le fils unique, s'il vous plaît, s'est cassé le cou comme un sot en escaladant le balcon d'une juive. Ah, si j'ai oublié de vous le dire, vous saurez que ces misérables ne conservent qu'un très vague souvenir de leur premier état. Est-ce tout? Demanda M. Gulzy. Non, mon colonel. Les trois soubrettes m'ont versé du marasquin. Il me semblait que je le connaissais, mais du diable si je peux deviner où je les ai vus. Ben voici les cancans de la garnison. La vieille dame aimait beaucoup son innocent fils. Elle veut plus rester dans le château qui lui rappelle son malheur. Et demain, elle partira pour la Hollande chercher une petite demoiselle qui est maintenant son unique héritière et qu'elle veut avoir avec elle. Les soubrettes m'ont offert aussi du rossolo. Et tu as laissé ton double avec elle? Oh, il était un peu gris. Elles l'ont mis dans un coin avec une bouteille d'anisette. C'est bien, dit pour la troisième fois M. Gulzy. À toi, Harpagon. Il s'adressait au perroquet qui blissait ses plumes en faisant le gros dos.
Moi, souverain seigneur, repartit l'ancien Moïse, j'ai mon double en ce moment auprès de la comtesse Douairière, qui est folle de moi. Quand elle m'a vu entrer tantôt par la fenêtre ouverte, elle a cessé de crier et de pleurer. Elle était presque consolée. J'aurais pu vous rapporter à meilleur style tout ce que les autres vous ont appris, mais puisque c'est désormais de l'histoire ancienne, je peux vous faire un cadeau plus solide. Tenez!
Se disant, le perroquet tira de dessous son aile en trousseau de clé guilloché et doré, qu'il passa respectueusement entre les mains de M. Gulzy en ajoutant
« C'est l'anneau de sûreté de la vieille dame. Avec cela, vous pouvez arriver commodément jusque dans sa chambre à coucher. »
M. Gulzy donna une tape d'amitié à Jaco et se mit sur ses jambes en disant « Eh bien, tout va bien, à la besogne !» Et il descendit les pentes abruptes de la montagne, suivi par sa domesticité. La nuit était déjà fort avancée quand ils arrivèrent au pied des murailles. Pour traverser les douves larges, profondes et remplies d'eau, M. Gulzy se servit du procédé décrit au précédent chapitre. Aucune sentinelle ne cria qui vive. Les soudards étaient au corps de garde, occupés à vider le baril de Kirschwasser en bavardant avec le double de la femme chauve. Dans le préau, le double du chien Fuchs n'eut garde d'aboyer. On ouvrait toutes les portes fermées avec le propre trousseau de la comtesse, et quand on passa auprès de l'antichambre où étaient les trois soubrettes, elle se divertissait si bien à faire boire du curaçao au double du bambin qu'elles n'entendirent aucun bruit. La pauvre douairière elle-même n'entendit pas davantage, assourdie qu'elle était par le babil du double de Jaco. Elle fut étranglée de la propre main de Fiole, la femme chauve. Et quand on pense que c'était la bonne comtesse Grete qui se conduisait ainsi, et le chien Fuchs, précédemment la douce Loos, fut chargé de venger le visage de la douairière, et M. Goetzy sema de la barbe. Je vous donne comme un fait assez extraordinaire que le bambin éprouva une sorte de léger malaise en voyant infliger un si indigne traitement au reste de celle qui avait été sa mère. M. Goetzy alors se retira après avoir mis le feu au rideau du lit pour expliquer la disparition du cadavre, car j'ai à peine besoin d'ajouter qu'il emmena avec lui la malheureuse dame de Montefalcon, qui devint l'aubergiste sans visage. Au moment où M. Goetzy quitta le château, Fiole et son baril disparurent du corps de garde. De leur côté, les trois soubrettes cherchèrent vainement le garçonnet au cerceau qui s'était évanoui. Tout ce lugubre monde, augmenté de maîtresse, tel était le nom de l'aubergiste, voyageait maintenant vers la mer. Une fois dans la plaine, M. Goetzy se retourna et put jouir d'un imposant spectacle. Les rideaux avaient communiqué le feu au lit, le lit à la chambre au corps de logis dont elle faisait partie. C'était splendide! Les gorges bizarrement illuminées offraient partout l'énigme de leur mystérieuse profondeur. Les pics neigeux avaient des reflets de pourpre, et au milieu de la scène, la flamme s'échevelait comme une roche torche colossale. Notre ami m'a dit bien souvent que rien n'était bien comme un incendie dans la montagne. Moi, je n'en puis parler savamment. M. Goetzy, malgré son indifférence habituelle pour les prédictions de la nature, s'arrêta un instant, mais il ouvrit bientôt sa route, traversa l'Adriatique dans une élégante tartane et ne s'arrêta qu'à Venise. Oh, je vous en décrirai pas le carnaval. Elle l'a fait en quelques pages d'une étonnante magnificence. Je vous dirai seulement que M. Goetzy, pour se reposer, attira dans un piège infâme la fille d'un gondolier du Lido et se désaltéra avec le sang de cette jeune personne. Oh, cela le remit complètement. Ce fut vers le temps où M. Goetzy entreprenait son voyage de Dalmatie que Ned Barton vint en Hollande pour un préparatif de son mariage. Le comte Tiberio habitait alors le bel hôtel qu'il avait acheté à Rotterdam depuis la mort de sa femme. Il ignorait encore, au moment où Ned débarqua au Bumpies, la fin malheureuse de son cousin, le jeune comte de Montefalcone. Bon, je ne vous étonnerai peut-être pas beaucoup en vous disant que Cornelia, tout occupée d'elle-même, ou plutôt qu'Edward Barton ne s'était pas encore aperçu des relations qui existaient entre Tiberio et Laetitia Palanti. Bon, on peut bien dire que dans Rotterdam, entier, Cornelia était seule à ignorer la conduite de son tuteur. Laetitia, depuis son voyage de Paris, s'affichait franchement en public et sa tenue orgueilleuse disait tout haut « Je suis chez moi, dans la maison de mon ancien maître ». Cependant, les choses changèrent un peu à l'arrivée de Ned. Je vous prie de remarquer que c'était un Anglais. Tout jeune, il est vrai, mais là, je n'y fais rien. Il y a dans l'anglais une suprématie. Sa présence commande le respect et impose la convenance. Bon, pensez ce que vous voudrez, devant lui, Tiberio eut honte et Laetitia eut peur. Les choses rentrèrent dans l'ordre à cause de lui et le scandale fit trêve parce qu'il était là. Mais Ned Barton avait amené son domestique, un pauvre étourneau d'Irlandais, hâbleur, paresseux, mal peigné, mal tenu, impropre depuis les pieds jusqu'à la tête, et qui n'avait pas dans son étroite cervelle pour 6 pence du plus vulgaire sens commun. Curieux à l'excès, indiscret, n'ayant que très peu le sentiment de sa dignité, il barbota tant et si bien dans les cancans de l'office et du dehors qu'au bout de quelques jours, il fut au fait de toute l'histoire, mieux que les témoins de l'histoire eux-mêmes. Mary Bones ne pouvait pas souffrir la Palanti. C'est assez ordinaire entre valets et institutrices. Il avait essayé déjà plus d'une fois de vider ce qu'il avait dans son sac contre elle en rasant son jeune maître. Mais Ned n'avait point voulu écouter. Un matin du mois de janvier, après avoir savonné les 2 joues de Ned, il tint son rasoir en suspens et dit « Votre honneur, la Hollande n'est pas un mauvais pays à cause du schiedam, mais la bière y est trop mate. La Meuse charriera plus d'un chien mort d'ici le mois de mars, et votre mariage n'est pas encore fait. Ma bouchale, c'est moi qui vous le dis. » Il passa rapidement le rasoir sur la peau du creux de sa main. « Fais vite, ordonna Edouard, je suis pressé. » La coquine est pressée aussi, répondit l'Hollandais. Pressée de mal faire et de vous jouer un vilain tour, ou que Dieu me punisse par le feu éternel. Avez-vous remarqué comme elle vous regarde, votre honneur? Fais vite, répéta Ned. Elle a déjà mangé je ne sais pas combien de 100 000 ducats sur l'imbécile, enfin j'entends le comte Tiberio, et c'est pas Miss Cordelia qui a la première place à table. Tiens, c'est vrai, fit Edouard. Ni la chambre d'honneur non plus, Bouchard. Mais c'est un drôle de pays que la Hollande, puisque les maîtresses d'école y ont des girandoles de diamants. Voulez-vous parier 2 pièces de 6 pence, qu'il faut 1 shilling, que je vais vous apprendre une nouvelle? Car Dieu soit loué, votre honneur ne sait jamais rien. Voilà un gros héritage qui tombe à Miss Corny, le cher ange, son cousin de Montefalcone. Je crois bien que c'est ce lot-là qui était capitaine, vient de mourir là-bas, je ne sais pas où. C'est l'institutrice qui en a reçu la première dépêche. Édouard écoutait enfin. Es-tu sûr de cela, garçon? Demanda-t-il. Et la dépêche de ce scélérat de Guernsey? As-tu l'as donc vue? On regarde un peu partout, n'est-ce pas? C'est le moyen de s'instruire. En tout cas, reprit Ned, c'est la comtesse Douairière qui hérite de son fils le capitaine. Mary Bones essuya son rasoir et secoua ses grands cheveux. Sans doute, votre honneur, répliqua-t-il. Mais voulez-vous mon idée? Oh, désormais, la comtesse Douairière ne fera point de vos yeux eaux. Et quand la comtesse Douairière sera partie, grâce à Miss Corny, entendez-vous? La maison du comte Liberio est aux 3/4 rangée, Angers. L'institutrice a encore faim. Tâchez de comprendre. Ce fut vers cette époque que les lettres d'aide et de Corny, adressées à notre Anna, commencèrent à perdre leur caractère de joyeuse insouciance. À la fin de février seulement, on apprit la mort de la grande douairière de Montefalcone, qui faisait de Cordelia une opulente héritière. Monsieur Guernsey était de retour, mais il ne se montrait point. Il y avait un complot, on essayait de pousser Édouard à quelque acte de violence pour avoir prétexte de rompre le mariage. Édouard Barton ne tenta point dans le piège qui était tendu sous ses pas, et il s'abstint de témoigner à la signora Palanti tout le mépris qu'elle lui inspirait et garda même vis-à-vis d'elle une telle mesure qu'elle pût se faire illusion sur ses sentiments. Ceci fut un malheur. Quant au comte Tiberio, Ned continua d'aller dans sa maison où seulement il pouvait se rencontrer avec Cornelia. Tiberia devenait chaque jour vis-à-vis de lui plus hautain, j'allais dire presque méprisant. L'accord concernant le mariage avait été si public qu'on ne pouvait guère le briser, mais il devenait évident qu'on susciterait des délais équivalents à une rupture. Ainsi, il fut question de faire, avant la cérémonie, un voyage au château de Montefalcone, voyage dont Edward Barton devait être exclu. Et Edward Barton ne protesta point. Telle était du moins l'impression qui ressortait des lettres reçues toutes ensemble par notre Anna la nuit de ses noces. Je dois dire tout de suite que ces lettres n'étaient pas complètement sincères. Elles reculaient devant l'expression de la vérité. C'est ici un scrupule anglais. En Angleterre, nous avons horreur du scandale appelé un enlèvement. Plus nous donnons de liberté à la jeune fille dans nos familles, plus nous exigeons d'elle que jamais elle ne rompra le lien des convenances. La décence est une vertu anglaise. Je ne crois pas que notre Anna ait mis un seul enlèvement dans ses livres. J'entends un enlèvement consenti par la jeune personne, car le rapt est un cas de force majeure moins choquant. Eh bien, dans l'excès de leur crainte, hélas, trop motivés, Edward Barton et Cornelia de Witt, après avoir cherché en vain un meilleur expédient, s'étaient déterminés à commettre cette action aussi répréhensible que dangereuse et qui ne peut être approuvée dans le gentry sous aucun prétexte. La basse classe fait ce qu'elle veut. Se sentant coupable intentionnellement d'une impropriété, Ned et Corny gardent le silence vis-à-vis de leurs amis. Or, ne me croyez pas capable d'excuser à aucun degré une chose qui n'est pas reçue. Seulement, je vous fais observer qu'ils avaient affaire à un banqueroutier peu scrupuleux, à une femme de mauvaise vie et à un vampire. Leur position était difficile, il n'y a pas à dire non. L'Irlandais Mary Bones contribua beaucoup à les entraîner vers la mauvaise voie et plut à Dieu en définitive qu'ils eussent réussi à la suivre, car d'effrayantes catastrophes auraient été évitées. S'ils avaient cru ce garçon qui avait au demeurant quelque bon sens, ils n'auraient pas attendu au dernier moment, et une fois à Londres sous la protection de la loi anglaise, ils se seraient bien moqués des ignobles bandits qui menaçaient à la fois leur bonheur, leur fortune et leur vie. Et quand ils se déterminèrent enfin, il était trop tard. La veille du jour fixé, Laetitia Palanti traita de parti pris Mademoiselle de Witt avec une telle hauteur que la pauvre noble fille, perdant douceur et patience, la remit à sa place fièrement. Ce même jour, qui était le dernier de février, le comte Tiberio parvint enfin à se procurer une querelle avec Edward Barton. Le contrat avait été signé la veille. Rien ne fut rompu expressément, mais le soir, quand Ned se présenta à l'hôtel, on lui refusa la porte. Et quand Cornelia voulut sortir le lendemain, on la retint prisonnière. Sur ces entrefaites, M. Goenzi reparut, jouant un rôle en apparence secourable, mais vous garderez bien de vous y fier. Il avertit vaguement Ned d'un danger qui ne spécifia point. Il conseilla à Corny de prendre courage. Mais par le fait, Mary Bones, qu'il tenta de noyer traîtreusement dans la Meuse, pendant que ce bon garçon gardait la barque à l'heure fixée pour la fille d'Edward Barton et de Cordelia, vous donnera bientôt de ses nouvelles. Vous savez d'avance comment se termina cet épisode du mariage rompu et de la fuite manquée. Au milieu de la nuit, Cordelia fut jetée dans une chaise de poste et enlevée non plus par Ned, mais par ce couple infâme, Tiberio et la Palancy, qui prirent la route à terre pour gagner le domaine de Montefalcone.